Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour, interview numéro 2. Je suis ravie de retrouver Emmanuelle Soufflet, directrice générale Bouygues Bâtiment Construction Privée. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Myriam.
On a beaucoup parlé de l'ADN, on a parlé d'un certain nombre d'exemples. Moi j'ai besoin aujourd'hui de rentrer plus spécifiquement dans un projet sur lequel qu'on a évoqué ensemble évidemment, mais sur lequel je pense qu'il y a des particularités vraiment très singulières. C'est le propre des particularités d'ailleurs. On peut en parler. IX Campus, quel drôle de nom pour un si beau projet.
Oui, alors IX Campus, effectivement, c'est un projet qu'on a en cours de réalisation. On est dans un Saint-Germain-en-Laye, dans un campus qui existe. Et l'idée, c'est d'étendre ce campus pour en doubler la capacité.
En faisant attention à la forêt, rassurez-moi.
Oui, parce que c'est un site très vert. D'ailleurs, je t'invite à venir le visiter.
Mais
si
avec
ça
grand
t'intéresse.
Plaisir. Bah oui, vraiment. Je prends au vol.
C'est un campus deep tech, en fait, qui accueille des étudiants, des chercheurs et des entreprises. Donc, c'est un modèle très vertueux et très intéressant, puisque finalement, on peut passer de l'un à l'autre.
Oui, de l'un à l'autre, ouais.
Dans d'étudiants dans une start-up, à une entreprise, à de la recherche. Ça, c'est un appel d'offres qui a été lancé en 2022. Et au départ, notre client, X Campus, Julien Lalanne, il a lancé un appel d'offres encore d'être assez paré parce qu'il avait un budget raisonnable, mais limité, comme tout bon investisseur.
Voilà, donc il n'avait pas envie de payer les X points en plus pour avoir une EG.
Exactement. Ouais. Ce qu'on entend tout le temps, mais il y a quand même quelques avantages à travailler avec
important.
Une EG. Je vais, quand même. Et donc, on est allé l'approcher. Puis, en fait, en discutant avec lui, on a compris qu'en fait, il avait une forte fibre environnementale et qu'on allait pouvoir lui proposer plein de choses
D'accord.
dessus. Et c'était au moment où nous, on avait développé, on avait lancé notre démarche Archisop dont on parlait dans l'interview précédente. Et donc, le fait d'être une entreprise générale, on peut développer un Archisop parce que Archisop, ça fonctionne. Donc, c'est notre démarche qui divise par 3 l'impact carbone des bâtiments. Et en fait, ça fonctionne en multilot, en fait. On va utiliser certains leviers. Alors, des fois, on va diminuer la structure, mais ça va augmenter autre chose.
Uh-huh.
En fait, tout ça, ça vient d'un équilibre. Et tu peux ne le proposer que quand tu es entreprise générale.
Et c'est vraiment dans le respect absolu de l'architecture.
Oui.
On peut nommer l'architecte, peut-être.
Oui,
parce que
y a
si
deux
je puis le permettre.
Baumschläger et puis Seim.
Bon,
et donc, effectivement, au début, on leur a fait un peu peur.
Ouais, je me doute. Ouais.
Mais en fait, donc, l'idée étant de conserver
l'esthétisme. Surtout que ça s'appelle archi-sobre, donc ça met les pieds dans le plat par rapport à l'architecture et aux architectes.
Oui. D'ailleurs, quand on a développé archi-sobre, je le précise, c'est que ce qu'on a voulu, c'est des bâtiments désirables, parce que qu'ils soient sobres environnementalement, mais beaux. Et on n'a pas de travail que nous en vase clos, on va dire chez Bouygues, c'est qu'on a associé et Franck Boutet.
D'accord.
Pour un peu se faire challenger.
Bonjour Franck.
qu'on adore, bonjour Franck. Et en disant, ce qu'on a fait, qu'est-ce que t'en penses? Donc lui, il nous a challengé. On est arrivé au même résultat que lui. Donc ça, c'est la première. Et après, on a travaillé avec 3 cabinets d'architecture.
D'accord.
NEM, Martin Duplantier et École de Vie.
Bonjour Martin.
Voilà. Et en disant, si on doit faire de l'archisob, il faut que ce soit beau et désirable parce que sinon, ça va rester dans le placard.
Ce campus, à la base, il y a un client privé.
Oui.
Qui a le bâtiment, le site existe déjà.
Oui.
Il a volonté de pouvoir de le développer. Après, ça fait un peu microcosme. On n'a pas l'impression que ça tourne, les chercheurs, les étudiants, l'entreprise, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment d'être peut-être aussi, en résonance avec l'extérieur, avec la vie à l'extérieur, parce que quelque part, dans ce genre de campus, faut être vigilant sur le fait de pas être resserré sur soi-même.
C'est des gens qui viennent de l'extérieur. Ça accueille une partie de l'université de Cergy. En fait, c'est hyper intéressant. Je vous invite vraiment à découvrir un peu ce qu'ils font là sur X Campus. Et en fait, on a aussi un client qui fourmille d'idées. Et donc, tu vois, par exemple, là, on est en chantier. Il a sourcé une start-up qu'il aimerait faire venir. Mais
D'accord.
pour faire venir cette start-up, il faut adapter son campus.
D'accord.
Et donc,
à la start-up.
À la start-up. Après, il faut qu'il puisse attirer des gens.
Bien
et
sûr.
Donc, ce qu'il nous demande, c'est comment je fais pour construire un bâtiment qui va correspondre aux besoins de cette start-up. Donc je crois qu'il est même allé avec des collaborateurs à moi visiter leurs locaux actuels, échanger avec eux pour qu'on adapte le projet alors qu'on est en cours de chantier.
Mais à ce moment-là, il fourmille d'idées. Qu'est-ce qu'on fait comme quand on est une entreprise et on doit quand même essayer de faire au mieux économiquement? Qu'est-ce qu'on fait et comment fait-on pour canaliser ces idées? Parce que un maître d'ouvrage qui a beaucoup d'idées, quelque part, ça a un coût, non?
Alors, nous, on adore. Déjà, on met les bonnes personnes en face de lui. Parce qu'on a aussi des collaborateurs qui fourmillent d'idées et à qui ça plaît, en fait, justement, de ne pas faire comme d'habitude.
Ouais.
Non, mais nous, ça nous a beaucoup plu. D'ailleurs, dans cette ambiance, état d'esprit pionnier, on a développé plein de choses. On fait de l'allotissement de corps d'état technique dessus, donc on teste, tu vois. On fait de l'industrialisation de façades bois. On va poser aussi des façades complètement, trois niveaux de façades d'un coup. Donc nous, ça nous a aussi poussé dans nos retranchements.
Donc c'est de la
ça
préfa, par exemple, les façades en façade bois, trois niveaux. Tiens, ça me fait penser à un projet.
Elles arrivent finies.
Et donc arrivent sur des 18 tonnes. Arrive avec comment on les monte,
méthodologie de l'usage. On est en train de les poser là actuellement, donc tu vois, faut vraiment venir. Il y a vraiment plein de choses intéressantes.
Et alors du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans toute cette profusion d'idées, on arrive à être raisonnable à la fois dans le temps et dans l'argent?
Mais parce que en fait, finalement, quand on construit archi-sobre, on construit moins cher. Et ce qui nous a permis de remporter l'appel d'offres face à du corps d'État, c'est pareil, c'est qu'à la fin, on était moins cher. On a réussi à lui proposer des solutions.
C'est scotchant, ça. Il n'y avait pas 15-20 points de plus.
Non. Non. Il a fait son appel d'offres. Et on lui garantissait aussi les délais. Et en fait, on a aussi fait un démarrage un peu différent d'habitude, puisqu'on était en train de finaliser le pro avec les équipes d'architectes et on commençait le chantier avec les équipes travaux. Et en fait, le fait d'avoir des équipes en interne qui se parlent, une agilité
donc,
de collaboration.
Il ne faut pas faire ça, il y a ci, il y a ça, etc. etc.
Donc,
on a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas sur le chantier, donc dans la phase pro des étages supérieurs, peut-être qu'on peut améliorer, etc.
Non, il faut avoir des équipes bien câblées pour faire tout ça, c'est essentiel. Et une bonne communication aussi avec le maître d'ouvrage, sachant qu'en plus sur le site on surélève un bâtiment alors qu'en dessous il y a des gens qui y travaillent. Donc beaucoup d'adaptations,
etc.
En site occupé. Ouais.
Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une situation où justement la communication, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, parce que je pense que quand on communique bien, on conçoit bien, on construit bien, et en fait au bout du bout, l'addition, elle est pas plus importante qu'elle ne l'était au début, sauf changement de programme bien évidemment. Qu'est-ce qui fait que dans la communication, il y a des outils, il y a des manières de faire différentes?
Je ne sais pas s'il y a des outils. Je pense que vraiment l'état d'esprit compte beaucoup. La transparence aussi. Et puis, il y a une relation de confiance qui se crée, mais autour du projet, en fait. Je pense que tout ce projet, ça a motivé tout le monde. C'était un projet différent, intéressant, avec des personnes vraiment qui, intellectuellement, se sont challengées. Et je pense que la mayonnaise a pris comme ça. Et ça, j'aimerais qu'on arrive à le calquer sur tous nos projets.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Parce qu'on crée vraiment de la valeur. Là, je trouve qu'on a collectivement tous créé de la valeur.
Alors, il y a eu de la valeur de créer. Qu'est-ce qui fait qu'au bout du bout, une fois que ce chantier ne sera plus un chantier, mais un vrai campus avec des utilisateurs, etc., on a certaines, en revenant en arrière, on a certaines valeurs qui peuvent être justement multipliées. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Le réemploi, la réflexion sur, sur des fluides, sur du préfa, sur qu'est-ce qui fait que on sort de cette expérience en se disant, tiens, il y a ça et ça et ça et ça qu'on peut reproduire.
Bon, alors déjà, le campus est très beau et les bâtiments qu'on va construire sont très beaux. Et je pense que le beau, ça réunit aussi pas mal de gens. Et on sait qu'on va livrer une opération dont on doit être très très fier. Donc la fierté autour. Après, on teste plein de choses sur ce bâtiment. Donc on a un client très ouvert. Tu vois, on utilise la boîte de cellulose. On a enlevé la climatisation. On fait de l'isolation en paille. Enfin, tout ce qui était concept il y a 2-3 ans,
devient réalité
sur cette opération. Donc
il n'y a pas du tout de clim. On est en ventilation naturelle partout.
Alors, on a enlevé la clim, mais on a gardé la possibilité de la mettre, tu vois. C'est, en disant, on s'offre la possibilité de la mettre parce que, bon, même si dans les évolutions de climat, les scénarios du GIEC, on est parti sur un climat 2050, bon, on ne sait pas.
Alors, bah, tout ça, c'est passionnant, ça donne envie d'aller voir. Bon, je pense que je vais amener ma petite équipe, venir voilà, faire un tour dans le coin. Si je suis invitée par...
Avec plaisir. Il y a un RER en plus qui va jusqu'à
Saint-Germain. Oh bah alors, formidable. Bon, on va être obligé de parler soft, mais quand même girl power, cher Emmanuel. Hein.
Très bien.
N'est-ce
très
pas
bien,
bon, bien. Tout ça pour dire que il existe encore certaines réticences dans nos métiers. Qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont à des postes dans lesquels, voilà, direction générale, CODIR, peut-être COMEX un jour, on ne sait jamais. Combien il y a de femmes au CODIR chez vous?
Au CODIR Bouygues Bâtiment France? Alors, dans le métier de directrice générale, il n'y a que moi. Mais après, on a des femmes au secrétariat général, à la prévention sécurité.
Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut inciter voilà, les femmes dans nos métiers, les métiers du bâtiment où, en fait, c'est extrêmement difficile de se dire, bah oui, on peut y aller et on peut avoir une vraie carrière importante et casser ce fameux plafond de verre. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait... modifier les choses, changer les choses, ne pas avoir ce sentiment que quelque part, c'est toujours beaucoup plus difficile.
Alors bon, déjà, il y a des femmes, mais moi j'ai beaucoup de femmes dans mes équipes qui sont patronnes de chantier, etc., qui font un super boulot au quotidien, qui sont fantastiques. Et donc je pense que ça, c'est très important d'avoir plein de femmes, exemples, qui motivent les autres et qui se disent, qui finalement, juste par leur action, montre aux autres que c'est possible. Parce qu'en fait, c'est possible. En fait.
Bien sûr.
C'est un peu le message que j'ai envie de porter. C'est un métier intéressant. Enfin, c'est un métier concret, c'est
pluriel.
Un métier chouette. Je pense qu'on a...
On rencontre beaucoup de gens.
Exactement, des gens vraiment très différents. En fait, c'est intellectuellement très, très nourrissant. Je pense que le métier du bâtiment, il a une image peu glamour encore. Alors que bah, c'est un super métier, en fait. On construit, qu'il y a du sens. Je pense que tout ça, ça
la
joue
pérennité.
Vraiment... Exactement. Et je pense que tout ça, ça joue vraiment à l'école. Les carrières, elles se décident un peu au collège, sur les filières scientifiques. Et je pense que si on avait une action à mener, d'aller dans les collèges et raconter ce métier, parce que finalement, il n'est pas très bien connu. Moi, quand je dis que je travaille dans le bâtiment, on m'imagine en train de poser des parpaings.
Bien sûr, bien sûr.
Alors qu'il y a tellement de métiers dans notre métier.
Bon, mais j'attrape au vol et je vais demander à Audrey aussi de nous aider. Et j'attrape au vol l'idée d'aller dans les collèges et d'essayer de porter la bonne parole.
Non,
qu'en penses-tu?
Ah non, mais moi j'ai une petite fille qui est au collège, tu vois, donc je suis particulièrement sensible.
Au revoir chers auditeurs et à bientôt. Merci Emmanuel.
Merci Myriam.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.